lisait mon histoire, puis ça m'a fait pleurer. Je savais même pas que c'était sur le site web. Je suis honoré d'être ici ce matin. Merci de cette invitation-là. Merci d'être là. La beauté de pouvoir adorer avec vous, c'est la beauté de pouvoir prendre le temps d'apprendre des nouveaux chants. Parce que tout ce qui était chanté ce matin, c'était pas tout du vieux pour moi. Mais vous aviez l'air de connaître ça, puis c'était enlevant, c'était extraordinaire, et ça permet d'adorer. Et d'être avec vous ce matin, ça me permet aussi de pouvoir savoir qu'on n'est pas tout seul dans notre petit coin, dans Schlaga, à essayer d'adorer le Seigneur et de faire la différence. Et vous êtes là, et puis je rends grâce à Dieu pour l'œuvre qui est ici et pour le travail qui est fait ici au nom du royaume de Dieu. Alors, merci d'être là. Merci de m'inviter. Vous allez me voir enlever puis mettre mes lunettes. Je ne peux pas vous regarder avec mes lunettes, mais je ne peux pas lire sans lunettes. Alors, ce matin, lisons d'abord dans Philippiens 2. Ça dit ceci. « N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez un même amour, une même pensée. Tendez vers le même but. Ne faites donc rien en esprit de rivalité ou par un vain désir pour vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Christ. » Et au chapitre 3, le verset 20, ça dit, « Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment le venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui nous permet de tout soumettre à son autorité. » Ce qui caractérise... Ben avant que j'aille là, je vais me présenter quand même un peu. Luc m'a fait trop d'éloges, là, ou c'est le site web là, qui est trop élogieux. Demandez à Christiane, elle va vous parler de moi, elle va voir, elle va baisser un peu les... je suis marié, forcément, je suis marié. Mon épouse s'appelle Lynn, elle est pasteur de l'église sur la rue Ontario, qui s'appelle Okma, qui veut dire sagesse en hébreu. J'ai trois enfants, Bérangère, Thierry et Zachary, qui sont aujourd'hui tous adultes. Thierry et Zachary travaillent avec moi au refuge. Et Bérangère travaille au compte payable d'une entreprise. Et les trois, dans la mesure où il n'y a rien de parfait, essayent de suivre le Seigneur. J'ai implanté des églises en France et au Québec depuis l'année 2000. J'ai travaillé 4 ans à Paris à implanter des églises et puis je suis revenu ici pour faire la même chose. Comme Luc l'a dit, j'ai fondé Care Montréal, qui est devenu aujourd'hui un incontournable dans le monde de l'itinérance à Montréal. C'était pas prévu comme ça, on n'avait pas planifié ça. J'ai pas ce genre d'ambition-là, moi, de générer des itinérants. C'est pas le but. Ce qu'on veut, c'est éliminer l'itinérance chronique, surtout. Alors, aujourd'hui, Care Montréal opère sur 3 campus, a plus de 200 employés, puis héberge 350 personnes à tous les jours. Moi, ouais, c'est ça. On donne un peu plus de 1 000 repas. on transporte ces gens-là d'un refuge à l'autre, et au centre-ville ou dans les services, et ainsi de suite. On est partenaire avec les grands refuges, forcément, et puis on travaille un peu là, comme ça. Je suis, bon, comme Luc l'a dit, représentant des églises mennonites au Québec et dans la région de Ottawa. Puis aujourd'hui, ben, je suis là et mon objectif, c'est de vous expliquer un peu, ou vous parler un peu de c'est quoi la foi anabaptiste. Et je supervise à peu près un peu plus d'une vingtaine d'églises en implantation. Donc, mon rôle, mon titre chez les mennonites, c'est mobilisateur. En anglais, ils disent « catalyst ». Je trouve que ça ne fait pas beau en français. « Catalyseur ». J'ai l'impression d'être un muffler. C'est ça. L'avantage, c'est que ça augmente la richesse, un catalyseur. Ils vont tous voler aujourd'hui. Ils sont à veille de partir avec les tanks à gaz, là, bientôt. Je suis un Montréalais né à Montréal. Je suis né à Saint-Henri, 53 ans de cela. Et puis, je suis un pur laine de Montréal. Un vrai Québécois, comme la plupart d'entre vous. Les valeurs d'un Québécois, c'est quoi? L'authenticité, hein? C'est comme la valeur principale. Il faut que tu sois authentique, il faut que tu sois vrai, la vérité. Hein? C'est pour ça que les institutions gouvernementales ou religieuses ont perdu, parce que trop souvent représentaient, les babines ne suivaient pas les bottines, hein? Ou l'inverse. Là, hein? On dit quelque chose en haut ici, mais on fait d'autres choses. Hein? C'est « fais ce que je dis, pas ce que je fais hein? ». Donc, à un moment donné, on a fait comme « ok, bye hein? ». C'est comme. Alors, l'authenticité est devenue une valeur intrinsèque aux Québécois. C'est nécessaire pour nous de voir en nos institutions quelque chose d'authentique, de vrai. Pourquoi est-ce que vous suivez Luc? C'est parce que vous savez qu'il est vrai. Sinon, vous ne seriez pas ici. Ou vous seriez en train de vous poser la question, quand est-ce que vous allez partir? C'est pas mal ça, l'authenticité. Une chose que les autres peuples disent de nous, c'est qu'on est accueillant. Hein, on est accueillant, on aime ça, hein, recevoir les gens. On est un pays du service à la clientèle. Bon, c'est rendu de moins en moins vrai parce qu'il n'y a plus d'employés. Mais on est là quand même, puis on veut servir et continuer à servir. Ça fait partie des valeurs d'être un Québécois. Être un anabaptiste, ça veut dire quoi? Tout à l'heure, Luc a dit qu'à la fin du mois d'août, aux alentours du mois de septembre, on va célébrer des baptêmes. Vous êtes d'accord? Saviez-vous que sans les anabaptistes, on se ferait tous baptiser en tant qu'enfants? Parce que c'est les anabaptistes qui ont amené le baptême des adultes dans la Réforme. Anabaptiste, ça veut dire rebaptiseur. Alors, c'est le mouvement anabaptiste lors de la Réforme. On appelait ça le mouvement de la Réforme au début, 1530, quelque chose comme ça, Zwingli, Luther, Calvin. Je ne vous les nommerai pas toutes, là, mais c'est les trois principaux qui ont commencé ce qu'on a appelé la Réforme. Puis, par la suite, est arrivé ce qu'on a appelé la Réforme radicale. Et là, la Réforme radicale, ça venait d'un mouvement qui a commencé en Suisse. On l'a appelé la Réforme des fourches. Pourquoi? Parce que les réformateurs évangélisaient l'élite de la société. Donc, Calvin, Luther, Zwingli essayaient de convertir les barons et l'élite, les érudits, ceux qui savaient lire. C'était eux autres qui visaient. Luther choisissait les barons qu'il allait évangéliser par la taille de leur armée. Parce que c'était plus facile de se battre contre l'Église avec une armée, tu sais. Alors ça, c'est un peu la manière. Et puis est arrivée la réforme des fourches. C'est quoi? C'est les fermiers, le petit peuple, qui a dit, « Hey, attendez une minute, là, nous autres aussi, on veut l'avoir, cette bonne nouvelle-là. » Hein? Et on a appelé ça la réforme des fourches ou la réforme des frères suisses. Ça s'est passé en Suisse. Et c'était le petit peuple, les fermiers, ceux qui n'avaient pas d'éducation vraiment. Mais essayez de me trouver un érudit, là, quelqu'un qui a un doctorat, qui est capable de me dire comment ça marche une ferme. Puis, des fois, tu sais. Bon, aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai. Il faut que tu fasses un doctorat pour comprendre comment ça fonctionne. Mais à l'époque, c'était pas mal ça. Donc, ça s'est commencé comme ça. La réforme a commencé, on a appelé ça. Et l'anabaptisme a dit, OK, les réformateurs, eux autres, bien, Luther a écrit ses 99 résolutions, mais il ne réformait pas le culte, le mode de célébrer dans l'Église. Luther n'a pas touché à ça. C'est Calvin qui a amené une réforme un peu dans le mode cultuel, et Calvin a gardé trois sacrements. Les trois sacrements qu'on célèbre, on en a célébré un ce matin, la Sainte-Cène. On célèbre le mariage et le baptême. C'est les trois sacrements qu'ils ont gardés. Les calvinistes continuaient à baptiser des enfants. Est arrivé donc les anabaptistes qui ont dit, « Hey, moi, quand je lis la Bible, je ne vois pas de baptême des enfants. Il me semble que ça ne marche pas. » Alors, ils ont commencé à enseigner sur ça. Ils ont enseigné aussi le pacifisme. Ils ont dit, « Arrêtez de vous battre. Jésus s'est laissé faire à la croix. Arrêtez de vous battre pour convaincre les autres que c'est votre affaire, que vous l'avez, vous autres, vous avez compris. » Donc, le pacifisme vient aussi des anabaptistes. C'était bien avant nous autres, là, mais dans le milieu chrétien, les anabaptistes sont très impliqués dans les mouvements de paix. Quelque chose que vous ne savez pas, qui est très, très proche de nous, hein? Quand je regarde toutes les têtes blanches, je cite, là, vous avez tous appris ou vous avez tous entendu parler de la crise d'Oka. Hein? Bien, ceux qui ont amené la fin de la crise d'Oka, c'est des Mennonites qui ont été engagés pour pouvoir permettre la réconciliation et le travail de réconciliation entre les groupes à ce moment-là qui n'arrivaient pas à s'entendre. Donc, les Mennonites sont souvent impliqués au niveau mondial à amener de la réconciliation ou à négocier des ententes de paix. Les anabaptistes ont dans leur foi quatre, je pourrais dire, grandes, on pourrait dire piliers. Mes amis à Kitchener n'aiment pas ça quand je dis pilier, mais je ne vois pas comment dire autrement. Quatre piliers. Jésus au centre de notre foi. On va les décortiquer un peu. Okay? La communauté au centre de nos vies. La réconciliation au centre de notre mission. Et le Saint-Esprit par qui nous faisons toutes choses. Ça, c'est les quatre piliers. Il faut savoir que historiquement, aujourd'hui, on vit une catastrophe mondiale. On entend parler à tous les jours qu'il y a des gens en Ukraine qui se battent pour garder leur pays. Avant la Deuxième Guerre mondiale, 20% de la population ukrainienne était mennonite. Les anabaptistes, les mennonites, c'était des Allemands, des fermiers, et la reine de Russie, en 1745, quelque chose comme ça, a fait un édit qui disait que toute personne qui n'était pas russe, qui voulait émigrer en Russie, pouvait venir et avoir une liberté de foi et une liberté d'évangélisation et pouvait pratiquer son métier librement. Cet édit-là a été démis un peu avant la Première Guerre mondiale, à la création de l'Union soviétique. Mais donc de 1750 à 1920, les Mennonites se sont installés dans le sud de l'Ukraine. Et ils ont commencé à créer, à s'installer là-bas, à créer des écoles, des banques, des hôpitaux, un système qui fonctionne, des villes. Ils ont créé plusieurs villes. Si vous allez au Manitoba, vous allez voir, il y a des noms de villes qui ressemblent à des noms russes. C'est parce que c'est la plupart des Ukrainiens qui ont immigré au Manitoba. C'est des Mennonites qui ont immigré. Alors, pour nous, les Mennonites, ce qui se passe en ce moment en Ukraine, je suis un gars émotif, moi, hein, fait que faut que je fasse attention quand je parle. Aujourd'hui, la conférence Mennonite mondiale est dans plus de 200 pays. On a un petit peu plus que, c'est 1,2 ou 1,3 millions d'églises adhérentes à travers le monde. 20 % de ces églises adhérentes-là sont en Amérique du Nord. Le reste, là, c'est l'Afrique, l'Asie, l'Europe. Donc, il y a forcément énormément de Mennonites en Afrique. Donc, ça, c'est peut-être pour la petite histoire, là. C'est un peu là, notre arrière-plan. D'où on vient? Qui on est? Lorsqu'on parle de Jésus au centre de notre foi, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Certains vont regarder le Christ glorifié. Christ après la Pentecôte. Pour moi, c'est le Christ inatteignable. Je ne peux pas être comme lui. À part quand il va revenir, là, puis comme on a lu là, dans Philippiens. Mais aujourd'hui, là, c'est difficile. La chose que je ne veux pas, c'est aller sur la croix. Même lui, il ne voulait pas y aller, donc moi, je n'ai pas de raison de vouloir aller là. Hein? Il l'a dit à son père, « Si tu peux éviter ça, ce serait cool. » tu sais. Mais bon, fais ce que tu veux, là, je vais te suivre. Il n'a pas dit ça de même, hein? C'est pas même qu'on le lit, mais hein? Traduction Michel Monnette libre. Alors, mais il n'avait pas envie, donc le Christ à la croix non plus. Alors, le modèle que nous avons pour nous, c'est le Christ des Évangiles, le Christ qui a marché parmi nous. Celui qui est au centre de notre foi, c'est celui qu'on est capable d'imiter. Je ne peux pas imiter Christ glorifié. J'ai aucune idée, ça ressemble à quoi. Je ne veux certainement pas imiter Christ à la croix. Je n'ai pas de raison de vouloir aller là. Ce que je dis toujours à mes employés, à mes gens, la perfection a terminé sur une croix. Si tu veux être parfait, là, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Okay? Moi, je n'ai pas envie, là, puis j'accepte mon imperfection. Mais le Christ qui a marché parmi nous, qui a enseigné à s'aimer les uns les autres, qui a donné le sermon sur la montagne, qui a viré les autorités à l'envers, qui a reviré tout ça, ce Christ-là, c'est celui qu'on veut suivre. J'avais dans mon groupe de jeunes en France un jeune homme qui ne suivait pas vraiment la foi, mais sa sœur et ses frères étaient là à l'église et venaient au groupe de jeunes. Et puis, sa sœur était une des leaders du groupe jeunesse. Et puis, lui, il ne suivait pas. Il n'avait pas envie. Puis là, sa sœur, puis lui, il jouait du drum à l'église. Puis là, sa sœur, elle a dit, « Tu ne joues plus de drum à l'église tant aussi longtemps que tu vas sortir avec cette fille-là qui est non-chrétienne. » Puis là, il vient me voir, puis il me raconte ça. Puis là, je suis déçu, puis je suis blessé parce que mon frère, là, ce jeune homme-là, il se bat, là, il est en train de se battre. Fait que je m'en vais au restaurant avec lui, on prend un café, puis je lui pose la question. Est-ce que tu aimes Christ? Puis, ben oui, il aimait Jésus, mais il ne savait juste pas comment l'exprimer. Alors, je lui ai posé la question, est-ce que c'est ta blonde qui va être au cœur de ta vie, puis toi et Jésus, vous allez tourner autour d'elle? Ou bien non, est-ce que c'est Jésus qui va être au cœur de ta vie, puis toi et ta blonde, vous allez tourner autour de lui? Et si tu décides de mettre Christ au cœur de ta vie, tu vas voir que les choses autour de toi vont se bouger. Et quand on a quitté la France, cette jeune fille-là s'inscrivait au cours de baptême à l'église. Et aujourd'hui, bien, ils sont là, puis ils marchent, puis ils continuent à marcher en tant que disciples de Christ. Parce que je ne les ai pas mis, eux, au cœur. J'ai mis Christ au cœur. Et dans nos vies, on doit faire la même affaire dans toutes les décisions qu'on prend. Est-ce que c'est Christ qui est au centre de nos vies, ou c'est nous qui est le centre, puis le reste tourne autour de nous? Est-ce que c'est Christ qui est au cœur de cette Église? J'imagine que oui. C'est ce que j'entends quand je lis, quand j'apprends, quand je parle avec mes amis qui fréquentent cette Église. La parole dit qu'il est une lampe à mes pieds pour éclairer mon sentier. La vérité et la vie, la parole, le Fils de Dieu, le salut, l'agneau sacrificiel, le bouc émissaire, le roi des rois. Voici le Christ que je veux mettre au centre de ma vie. Celui que je peux imiter. La communauté au centre de nos vies. Dans ce que l'on fait. Christ au cœur de ma foi, la communauté au centre de ma vie. Pourquoi la communauté? Jésus a dit, je bâtirai mon Église. À l'époque, là, quand les disciples ont entendu ça, en passant, là, le mot « église » dans les quatre évangiles, il est là deux fois seulement. Hein? Saviez-vous? Je ferai une petite recherche. Là. Le mot « église », c'est Jésus qui l'a dit juste deux fois. Au moment où Jésus a dit ça, la première fois que les disciples ont entendu ça, ou que les gens ont entendu « je bâtirai mon église », ils ont entendu quoi? Je dirais, aujourd'hui, on dirait, je vais bâtir mon hôtel de ville. L'endroit où les décisions pour l'avenir de la ville se prennent, c'est ici. Pas à l'hôtel de ville. Désolé, y a-t-il quelqu'un ici qui fait partie de l'hôtel de ville? Je suis désolé, t'es pas à la bonne place. C'est là, c'est ici que ça se prend. OK? C'est ici que ça se prend. Pas autrement, pas ailleurs. Parce que c'est ça que ça veut dire, l'Église. L'Église, c'est l'équivalent du tronc pour les Africains. C'est l'équivalent de la porte pour les villages au moment où Jésus était là pour les Hébreux. C'était là que les érudits ou que les autorités se rassemblaient pour décider ce qui allait se passer à la ville. C'est ça, l'Église. La communauté, c'est par là que ça se passe. C'est ensemble qu'on décide. C'est nous qui avons l'avenir de la ville entre nos mains. Oh, je le sais, c'est une grande responsabilité. Là. Restez, là, vous n'êtes pas obligé de vous en aller, c'est correct. C'est une grande responsabilité, mais c'est tellement wow. Lorsqu'on sait qu'ensemble, on a le pouvoir de transformer une ville. Jésus, avec 12, a transformé le monde entier. Et comptez-vous, là. Imaginez ce que vous pouvez faire aller ici. C'est l'Assomption aussi, la ville. Hein? Imaginez ce que vous pouvez faire ici, avec la gang que vous êtes. Wow! Ça, c'est la communauté. La communauté, pour nous, les anabaptistes, c'est là où la théologie se fait. C'est lorsqu'on est ensemble qu'on discute la parole. Nous croyons que ma compréhension de la parole n'est pas simple, n'est pas complète. Corinthiens dit, notre révélation est imparfaite. Alors, ce que je comprends de Dieu est imparfait, mais ce que tu comprends de Dieu, ce qu'elle comprend de Dieu, ce qu'elle comprend de Dieu, ce qu'il comprend de Dieu. Et puis là, je peux tout vous pointer. Tous ensemble, lorsqu'on prend un texte, peu importe le petit texte qu'on a lu dans Philippiens, et puis là, on s'en va, là, OK, chacun, puis on écrit qu'est-ce qu'on pense qui vient d'être écrit, puis on assemble ça ensemble, on est déjà beaucoup plus proche de ce que Dieu voulait dire au peuple que juste moi tout seul devant Dieu. Je peux avoir toutes les révélations du monde, ces révélations-là sont imparfaites. Mais ensemble, toutes ces révélations-là, ensemble, on est beaucoup plus proche de la réelle signification. Pourquoi? Parce que Dieu te parle autant qu'il me parle, autant qu'il parle à ton pasteur ou bien non à la directrice de la louange, qui a fait une job extraordinaire. Bravo. Hein? C'était... T'as une belle voix en passant. T'as un beau don. Bravo. Elle a un ton de voix similaire, effectivement. Ça s'entend dans son ton de voix. Je suis d'accord avec vous. Alors, tout ça simplement pour vous dire que sans la communauté, on n'y arrive pas. Vous avez une sœur qui est malade depuis 8 mois. Et grâce à vous, aujourd'hui, son micro-ondes est un salut. Parce que vous y amenez de la bouffe, puis elle n'a pas besoin de la faire cuire. Puis elle vous a dit, bien là, j'ai plus de... Il faudrait vous m'acheter un autre congélateur si vous continuez à amener de la bouffe. OK? Hein? Donc, la communauté, ça s'entraide. On travaille ensemble. Mais la communauté, c'est aussi la manière que j'ai de comprendre Dieu. Et lorsque je regarde les autres, comme on lit dans Philippiens, je dois voir Christ en vous et non me poser comme Christ pour vous. Si je suis Christ pour vous, je m'installe au-dessus de vous. Parce que pour moi, Christ, c'est le roi. Si je vois Christ en vous, c'est vous qui devenez le roi. Alors, je deviens votre subordonné, votre subalterne. Je deviens à votre service. C'est plus pantoute la même chose. Et c'est ça, la communauté. C'est ça qui est beau dans la communauté. C'est d'être ensemble, de travailler ensemble. Luc a dit tout à l'heure que ça prenait 10 personnes pour remplacer un qui va se faire opérer. Hein? Pourquoi? Parce qu'à toutes les semaines, il est là, c'était D, puis égal, puis il place là. Puis je vous le dis, là, ce que vous vivez là avec cet homme-là, moi j'ai 20-25 églises, là. Puis je vous le dis, vivent toutes la même affaire. Quand il y a la personne là, qui fait la job que personne ne veut faire, qu'elle tombe malade, c'est une catastrophe pour l'Église. C'est réellement une catastrophe. Alors ensemble, on est capable de simplement dire, OK, on a besoin de 1, 2, 3, 4 personnes là, dimanche matin. Hein? Une fait ce rangée là, l'autre rangée là, l'autre rangée là. On est tranquille, c'est fait. La réconciliation qui est notre mission. Pour nous, les Ménonites, nous avons appris très, très vite le pacifisme et la nécessité de réconcilier les hommes et les femmes avec Dieu. Mais pas juste avec Dieu, entre eux et avec la création. C'est quelque chose de tridimensionnel, la réconciliation. Et ce n'est pas quelque chose qui vient un avant l'autre nécessairement. Tu peux te réconcilier avec Dieu en premier, c'est correct. Il y en a qui vont se réconcilier avec les autres en premier. Il y en a qui vont devenir des écolos. Hein? C'est le mouvement chrétien qui aurait dû créer Greenpeace. On n'a pas compris. Hein? Greenpeace s'est créé à l'extérieur de... Hein? Puis là, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens supportent le mouvement Greenpeace. Mais c'est l'inverse, c'est le Greenpeace qui aurait dû être créé par nous. Parce que la planète, c'est important. Puis on le sait maintenant. Hein? L'ONU, si vous allez au cinéma, là, vous allez voir une publicité de l'ONU. C'est un dinosaure qui vient en avant de l'Assemblée de l'ONU pour leur dire que s'ils continuent à faire ce qu'ils font, ils courent à leur extinction. Les dinosaures n'avaient pas d'intelligence, puis ont été exterminés. Imaginez-nous. Ça, c'est une autre histoire. Donc, la réconciliation avec Dieu, la réconciliation avec les autres, la réconciliation avec la création. Nous sommes des ambassadeurs de réconciliation. Colossiens dit, « Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin que toute chose, il est le premier rang, car c'est en lui que Dieu a désiré que la plénitude ait sa demeure, et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, instaurer la paix par le sang de son Fils versé à la croix. » Corinthiens dit, nous avons reçu un ministère de réconciliation. Et Paul dit, je vous en supplie au nom de Christ, soyez réconciliés. Mais si ma réconciliation inclut de la division, inclut, c'est moi qui l'ai l'affaire. Si ma réconciliation, c'est juste ma gang. Souvenez, les disciples, dans Luc ou dans Marc, ça dit, les disciples vont voir Jésus puis ils disent, on a rencontré des gars qui chassaient des démons en ton nom. Puis parce qu'ils n'étaient pas de notre gang, on leur a dit d'arrêter ça. Puis Jésus a dit, mêlez-vous donc de vos affaires, s'ils ne sont pas contre nous, ils sont pour nous autres. OK? Bon, encore une fois, traduction libre, là, mais OK. Mais c'est pas mal ça que ça voulait dire. Hein? Laissez-les donc tranquilles. Pourquoi est-ce qu'ils doivent absolument être comme nous? Pourquoi ça devrait vraiment, là, il faut que tu penses pareil comme moi? Ben, Philippiens, c'est ça qui enseigne. Mais est-ce que penser comme moi, ça veut dire vraiment là, identique à moi? Ou bien non, tu peux avoir ta couleur, ta manière. Ce qu'on a dit, c'est l'interprétation communautaire de la parole nous approche beaucoup plus de sa signification réelle que ma propre interprétation. Alors, ta couleur est aussi importante que la sienne. Alors, la réconciliation. Soyez réconciliés. Un jeune homme est venu chez moi et il me dit, « Michel, je suis pogné dans la drogue, je trouve ça dur, faut que je m'en sorte. Je connais un organisme chrétien qui peut t'aider. » Ça s'appelle l'amour en action. On va en parler de ça? Je dis, « Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Elle va t'héberger et elle va te donner un coup de main. » Puis il me répond, « Je veux rien savoir des chrétiens. » Fait que là, j'ai dit, OK, je vais te donner un exemple. J'ai dit, comment tu fais pour entrer dans une ambassade, demander à l'ambassadeur de l'aide en lui disant qu'il ne faut pas que ça vienne de son pays? Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans patente, toi, là? Moi, je suis un ambassadeur de Christ. Ici, c'est l'ambassade du royaume de Dieu. Quand tu rentres ici, c'est le royaume de Dieu qui va t'aider, puis rien d'autre, mon buddy. Il est parti. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je ne pouvais pas courir après, là. Jésus n'a pas couru après le jeune homme riche. Il était juste attristé. Et j'étais triste. Et je termine avec le Saint-Esprit. Jean dit, je prierai le Père et il vous donnera un consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Vous connaissez le texte de Actes, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si les disciples n'avaient pas appliqué ça, nous autres, on ne serait pas ici aujourd'hui. On est pas mal à l'extrémité de la terre pour eux autres. Hein? Maintenant, c'est quoi l'extrémité de la terre pour ici? La question que je vous pose aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Il vous dit quoi? Quand je lis la parole, Le Saint-Esprit est là pour convaincre de péché et de justice. Ce n'est pas à moi de te convaincre que tu pèches. Ma job, c'est de nommer le péché. C'est lui qui te convainc. Pas moi. Est-ce que tu travailles au noir? Tant que tu payes tes comptes, c'est le Saint-Esprit qui te convainc d'arrêter de faire ça. Amen. C'est pas à moi de faire ça. Moi, ma job, c'est juste de déclarer que ça, c'est pas selon la parole de Dieu, ma compréhension de la parole de Dieu. Et ainsi de suite. Il y en a plein d'autres. Je n'ai pas besoin de nommer. Okay? L'idée ici, c'est de dire que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Quand j'évangélise, c'est le Saint-Esprit qui fait un job de conviction. Il met les paroles dans ma bouche. Et c'est une bonne nouvelle. Moi, quand je commence à évangéliser, je commence par Genèse 1. « Hey, tu as été créé à l'image de Dieu. C'est-tu une Moses de bonne nouvelle, ça? » Pas un, « Si tu continues à faire tes conneries, tu t'en vas en enfer. » Ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Hein? Évangéliser, c'est dire une bonne nouvelle. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre de la mauvaise nouvelle. Moi, ma job, c'est de te donner la bonne. T'es sauvé par grâce, puis t'es créé à l'image de Dieu. Et il t'a donné une deuxième vie. Trop souvent, nous autres, on dit, donne à Dieu toute ta vie, donne-y ta vie. Mais c'est Jésus qui a donné sa vie. C'est ça, la bonne nouvelle. Moi, j'ai un jeune homme qui rentre dans mon bureau et dit, on m'a dit qu'il fallait que je donne ma vie à Jésus. J'ai pas envie de faire ça. Moi, ma vie, je vais la garder. Puis j'ai dit, ben garde-la, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais lui, il t'a donné toute sa vie déjà. Lui, il te l'a donné, sa vie. Au complet, on l'a chanté 5 fois aujourd'hui. Là. Je pointe là parce que c'est là que les paroles étaient. Là. C'est ça la bonne nouvelle. C'est lui qui convainc de péché et de justice, pas moi. Moi, ma job, c'est de donner une bonne nouvelle, puis le Saint-Esprit va faire le reste. Puis si je ne fais pas ma job, il va en passer un autre, puis c'est tout. OK? C'est tout. Hein? Si tu n'as fait pas ta job, les pierres vont parler, qu'il dit. Hein? J'aurais honte, moi, sérieux, si la roche à côté de moi se fait en parler. Là. Qu'est-ce que j'ai manqué, tu sais? Il est clair, c'est lui qui nous permet de comprendre la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, la parole de Dieu, c'est comme un livre inutile. Parce que sérieusement, là, c'est barbare en tabarouette lire la Bible. Là. C'est fatigant. OK? C'est sérieux, là. Je veux dire, tape-toi les chroniques, tu vas voir ce que je veux dire. OK, correct? OK. OK. Je veux dire, Colin, tu sais. Une série de noms inutiles, tu sais. C'est comme voici, tu sais, puis là, tu sais. Hein? Hey, c'est fatigant, ça, là. Sans le Saint-Esprit, Romain nous dit qu'il est impossible de comprendre l'être humain ou de comprendre l'homme ou la femme sans l'Esprit qui habite dans l'homme ou la femme. Et c'est pareil pour comprendre Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas le comprendre. C'est lui qui t'éclaire sur la parole. C'est lui qui t'éclaire sur le chemin que tu es. Trop souvent, on fixe la lumière au lieu de regarder ce qu'elle éclaire. Qu'est-ce que Jésus éclaire autour de toi? Est-ce que tu as tout le temps les yeux fixés sur Jésus? Je te le dis, essaye-les, OK? Passe 5 minutes à regarder la lumière. Moi, je vois juste des points noirs, là, depuis, ça n'a même pas duré 2 minutes. Là. OK? On vient qu'on ne voit plus rien si on se fixe juste à la lumière. Lâche-les tranquilles, les disciples, ils ont fait ça, eux autres, ils l'ont regardé. Il a fallu que Jésus envoie des anges pour dire, qu'est-ce que vous faites, les gars? Allez travailler! Il ne reviendra pas tout de suite, là. Allez-y. OK? À un moment donné, notre travail, c'est d'être les pieds, les mains, la tête, les yeux, la bouche pour embrasser puis donner une nouvelle extraordinaire au nom de Christ par le Saint-Esprit. On vient à l'église pour se recharger. Si tu ne charges pas ton téléphone, tu vas voir, va devenir inutile assez vite. OK? C'est pareil ici. L'église, c'est une prise. Là, hein? C'est comme... Puis tu marches à batterie, puis c'est le Saint-Esprit qui est une batterie sans fil. OK? Hein? Puis lui, il va te connecter à côté, je te le dis, là. Excusez mon Québécois. C'est lui qui transforme. Hey, c'est un pouvoir extraordinaire. Hein? On voit ça dans tous les films aujourd'hui. Hein? C'est les films de super-héros, puis ils ont tout un pouvoir de transformation. Ils se métamorphosent en d'autres choses. toi, tu es métamorphosé à partir du moment où tu acceptes cette bonne nouvelle extraordinaire que tu as été créé au nom de Jésus, tu as été créé à l'image de Dieu, puis que tu acceptes la vie qu'il te donne. À partir de ce moment-là, tu te transformes en l'image de Christ. Y a-t-il quelque chose de plus wow? Hey, j'ai un pouvoir de transformation. Moi, j'ai un pouvoir de métamorphose. Ma mère avait raison. Elle disait tout le temps que j'étais un petit... Bon, vous suivez le reste. Pour les non-québécois, là, c'était Chris. OK. Hein? Elle avait raison. Elle ne comprenait pas vraiment, mais ça, c'est une autre histoire. OK. L'idée, là, ici, c'est que c'est lui qui nous transforme en son image. Mais si lui n'est pas le centre de ma foi, je vais être transformé en quoi? Je ne sais pas, moi, en Netflix ou en Prime. Ou, hein? Ça dépend de combien d'heures tu passes à regarder Netflix puis Prime au lieu de regarder Jésus. Tu sais. Mais à un moment donné, il faut t'arrêter de le regarder, il faut t'agisses. OK? Bon, je finis avec ça. Luc, il va me faire une éjection. C'est lui qui nous équipe, le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit qui nous équipe, qui nous donne les dons. Si vous lisez le Nouveau Testament, vous allez lire à plusieurs endroits, Corinthiens, Éphésiens, Pierre, je pense, Jacques, merci. Il y en a qui lisent leur Bible, ou en tout cas qui la connaissent. Hein? Des listes de dons. Ça commence tout le temps, ou dans le texte, ça dit tout le temps que ça vient du Saint-Esprit, ça. C'est le Saint-Esprit qui nous équipe. C'est lui qui nous permet de pouvoir faire l'œuvre qu'on a à accomplir. Sans ça, ça ne marche pas. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, je suis un comptable inutile. Bien, pour Pricewaterhouse, tu es peut-être un comptable utile, là, tu lui rapportes du cash. OK, c'est correct. OK. Mais si tu fais ta job avec Christ comme modèle, avec le Saint-Esprit en toi, tu vas dénoncer les irrégularités sans problème. Tu n'auras pas peur. Le Saint-Esprit nous équipe, non seulement pour faire le ministère comme on le fait ici, mais ça, c'est moins de 20 % de l'Église qui travaille dans le ministère. Vous, vous êtes tous là, puis vous avez tous un ministère, vous avez tous été appelés au nom de Christ à être des disciples de Jésus-Christ là où vous êtes, dans votre travail, dans votre voisinage, dans votre famille. Et si on ne met pas ça en pratique, mes amis, on est des chrétiens du dimanche matin, 52 semaines par année, 4 heures par semaine. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Donc, je vous laisse avec cette question-là. Que tu sois anabaptiste, ou mennonite, ou pentecôtiste, ou indépendant, ou... ça ne me dérange pas, ça. Moi, j'en ai rien à faire. Moi, je ne suis pas un anabaptiste mennonite. Je suis un disciple de Jésus-Christ qui pratique sa foi dans une église anabaptiste. Et c'est juste une tradition, ça. OK? C'est juste une tradition. Quand je vais rentrer au ciel, mon étiquette, elle va rester à la porte, là. OK? Quand on a commencé l'Église, les gens disaient, on n'était pas à ce moment-là associés avec les Mennonites. On est, et puis, les gens disaient, ah, tu es dans une Église indépendante. Je dis, je dirais autonome, parce qu'on est trop petit pour être indépendant. ça coûte cher, l'indépendance. Hein? Ça prend les moyens pour être indépendant. Ceux qui ont des enfants, vous allez l'apprendre. Mais la question que j'ai pour vous, c'est, est-ce que tu es prêt à mettre Christ au centre de ta foi, à vivre en communauté au centre de ta vie, à expérimenter et à être un ambassadeur de la réconciliation comme une mission? Puis est-ce que tu es prêt à laisser le Saint-Esprit te convaincre, t'éclairer, te transformer et t'équiper? Ceux qui veulent apprendre un petit peu plus, j'ai 3 livres à donner. Ronald, il les a derrière, là, donc il va les distribuer. Ça s'appelle « Anabaptiste, l'essentiel anabaptiste », c'est en français. Ça va vous expliquer un petit peu plus. Maintenant, je ne veux pas vous voir dans mon église, sauf si vous venez me visiter. Vous, c'est ici votre église. Restez ici. OK? Correct? Je ne suis pas ici pour faire de l'évangélisation d'église. OK? Alors, je laisse la parole à Luc. Je vous aime énormément. Merci de l'honneur que vous m'avez donné. Que Dieu vous bénisse.
J'aime les Ménonites. J'ai demandé à Michel s'il pourrait prier pour nous, pour ce qu'il a prononcé sur nous, d'être les disciples de Christ partout où on va, d'être aussi des gens de paix, des ambassadeurs de paix sur la terre aussi. Non seulement autour de nous, mais entre nous, dans tout ce qu'on vit, que ce soit par rapport à nos gouvernements, par rapport à ceux qui ne pensent pas comme nous. On sait qu'on a de la guérison à vivre dans ce sens-là, avec la pandémie et tout ce qui s'est passé. On a besoin d'être des ambassadeurs de paix, puis c'est une valeur que je trouve extraordinaire au sein de cette Église-là. Alors, des ambassadeurs de paix et Christ dans notre quotidien qui répand la saveur de Christ autour de nous. Et le reste aussi.
Amen. Seigneur, tu es grand. Tu es tellement merveilleux. Il n'y a rien que je peux dire pour te décrire vraiment, autre que simplement exprimer tout ce que tu fais dans ma vie, toutes les transformations que tu as mises dans ma vie, tous les faux pas que tu m'as évités. Papa, tu vois tes enfants là, ici. Tu vois aussi le berger que tu as mis devant eux. Ce pasteur qui est là pour prendre soin d'eux, de leur donner le bon pâturage. Papa, tu es extraordinaire. Aucun mot pour te décrire autre que « wow ». Aucun mot pour exprimer comment c'est génial de marcher avec toi autre que « wow ». Merci, Papa, pour cette communauté, pour cette Église, l'Église à Lanaudière, cette Église, ton peuple ici, dans cette ville, que tu as appointée pour transformer cette ville en ville du royaume de Dieu. Merci, merci pour ton œuvre qui est déjà ici. Aide-nous à voir où est-ce que tu es à l'œuvre et qu'on puisse participer à cette œuvre-là. Ne nous donne pas l'arrogance de te demander de nous suivre dans nos œuvres, mais donne-nous l'humilité de vouloir marcher avec toi dans ton œuvre et que ton nom soit toujours élevé, ici, partout dans cette région, et qu'on puisse se réjouir de voir les hommes et les femmes accepter ce cadeau extraordinaire de ta vie autour de nous. Que ton nom soit loué. Amen.